La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cozandet et je suis pasteur de l'Église Adventiste. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'avant-dernier chapitre de la Bible qui nous parle d'une ville mystérieuse appelée la Nouvelle Jérusalem. Je lis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 9 à 27. Et voici l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers grands malheurs. Il vient me dire « Viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. » L'Esprit Saint vient en moi et il me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute. Il me montre la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel envoyée par Dieu. La gloire de Dieu l'éclaire de sa lumière. Elle brille comme une pierre précieuse, comme une pierre verte aussi transparente que du verre. Les murs de la ville sont hauts et épais. La ville a 12 portes et 12 anges les gardent. Sur les portes, des noms sont écrits. Ce sont les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y a 3 portes de chaque côté de la ville, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Les murs de la ville sont posés sur 12 pierres de fondation et sur ces pierres, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parle tient quelque chose pour mesurer. C'est un roseau en or. Il mesure la ville, ses portes et ses murs. La ville est carrée. Sa longueur est égale à sa largeur. L'angle la mesure avec le roseau. Il y a 12 000 mesures en longueur, en largeur et en hauteur. L'ange mesure les murs, 144 mesures. L'ange utilise les mesures habituelles. Les murs de la ville sont construits en pierre précieuse verte. La ville est en or pur, aussi transparente que du verre. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte, la deuxième est bleue, la troisième a plusieurs couleurs. La quatrième est bleu-vert, la cinquième est rouge comme le sang, la sixième est rouge foncé, la septième est vert clair, la huitième est rose, la neuvième est jaune. La dixième est jaune-vert, la onzième est rouge-orange, la douzième est violette. Les 12 portes sont 12 perles, et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur transparent comme du verre. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière, les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville. Ses portes ne seront jamais fermées parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Voilà, je lisais dans la Bible, au livre de l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 9 à 27. J'ai toujours fantasmé en me demandant à quoi ressemblerait la vie dans le royaume des cieux. La Bible annonce qu'un jour Jésus reviendra et qu'il y aura le jugement dernier et qu'enfin le mal sera arrêté. Mais après, comment ça se passera? Est-ce qu'on sera au ciel ou bien sur la terre? Quand j'étais enfant, j'imaginais, comme beaucoup, l'image d'un paradis où nous serions assis sur un nuage à jouer de la harpe pour l'éternité, et je me suis dit que ça serait terriblement ennuyeux. Dans le passage de l'Apocalypse que nous avons lu, Jean parle plutôt d'une ville qui descend du ciel, la Nouvelle Jérusalem. Et là aussi, j'ai l'imagination qui tourne à fond. Est-ce que c'est ça le paradis, une sorte de vaisseau spatial grand comme une ville qui descend sur Terre et qui devient la capitale de la Nouvelle Terre? Alors, je vous propose de partir en exploration de ce que nous dit Jean donc dans ces versets d'Apocalypse, chapitre 21, les versets 9 à 27. Alors, pour bien comprendre ce texte, on a besoin de prendre un peu de recul et de se mettre dans la peau de l'apôtre Jean qui écrit ce livre. Jean est l'un des disciples qui était très proche de Jésus et qui a été envoyé en prison sur une île à cause de sa foi. J'imagine ses sentiments vers la fin de ce livre qu'il est en train d'écrire. Il est seul et prisonnier sur son île. Il a vu dans ses visions des choses abominables, des dragons, des guerres, du sang, des fléaux. Les images ont défilé devant lui, mais au contraire d'un film, lui, il est dedans. C'était aussi son histoire, celle de ses frères et de ses sœurs chrétiens. Sa tête est remplie de toutes ces monstruosités de l'histoire des hommes. Le cœur lourd de toutes ses larmes, de toutes ses souffrances, Jean est en train de pleurer. Et voici ce qu'il dit au verset 3 et 4 du chapitre 21. « Alors, j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien aura disparu. » Dieu vient lui parler de consolation et d'espoir. Mais pour Jean, rien n'a encore changé. Il est toujours sur son île avec ses frères qui se font persécuter et tuer de l'autre côté de la mer. Tout ça, ce ne sont que des images, que des mots. Alors Dieu lui dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Dieu est en train de répondre à sa tristesse, comme s'il lui disait « Fais-moi confiance, écris pour que cela reste marqué, parce que cela va vraiment arriver. » Voilà donc pourquoi Dieu lui a demandé d'écrire cela. Parce que ça va vraiment arriver et que le fait de le savoir à l'avance a des répercussions dans notre vie aujourd'hui. Sinon, il n'aurait pas pris le temps de le raconter. Donc le premier but de Dieu est de nous encourager pour qu'on aille jusqu'au bout. Ça serait dommage d'abandonner aujourd'hui s'il y a quelque chose de formidable au bout. Le verset 2 du chapitre 21 nous dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » Il y a donc une ville qui descend d'en haut. Il se souvient d'une autre ville, Babylone, qui, elle, venait d'en bas et qui symbolisait le mal et le péché du monde. Mais là, il n'y a plus de Babylone, ça y est, c'est fini. Et en comparaison, la nouvelle Jérusalem est différente. Elle vient d'auprès de Dieu et elle est comparée à une mariée. Alors dans tout le reste du récit, dans ce chapitre 21, Jean sera comme un photographe de mariage avec son appareil ou sa caméra qui va faire le reportage de ce bel événement. Sauf qu'il y a peut-être déjà un problème, Jean a dû mal régler son appareil photo parce que les images ont l'air d'être complètement déformées. Dans beaucoup de représentations d'artistes, la Nouvelle Jérusalem est représentée comme une sorte de forteresse médiévale un peu futuriste, toute dorée et rayonnante de lumière. Mais ici, au verset 16, cette ville est décrite comme un cube de 12 000 mesures de côté. Le texte grec utilise la mesure qu'on appelle les stades. Et 12 000 stades, ça fait autour de 2200 km. C'est plus de deux fois la France. Donc imaginez une ville qui est un cube de 2200 km de côté. Vous imaginez la hauteur? L'Everest fait à peine 11 km de haut et on a déjà du mal à y respirer, alors imaginez à 2220 km d'altitude. Cette ville dépasse toutes les formes et les dimensions connues. Autre détail étrange concernant cette ville, au verset 21, Jean nous dit que la place de la ville était faite d'un or pur comme du verre transparent. Personnellement, j'ai toujours cru que l'or était opaque, alors de l'or transparent, ça dépasse tout ce que je peux comprendre. Alors, est-ce que Jean s'est trompé en réglant le zoom de sa caméra? Plus qu'une ville littérale, Jean semble utiliser des images, des symboles pour décrire une autre réalité. Mais pourquoi utiliser ce qui ressemble à un code secret incompréhensible? La première raison pour laquelle toutes ces images sont utilisées, c'est pour stimuler l'imaginaire et le besoin de comprendre. C'est pour cela, par exemple, que Jésus racontait beaucoup de paraboles. Les images nous poussent à chercher, à demander à Dieu de nous expliquer. « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me dis, je te prie, explique-moi. » La deuxième raison, c'est qu'une image permet de dire plus de choses que si on ne faisait que décrire la réalité telle qu'elle. Mais les images ne suffisent pas. Il faut des clés pour savoir comment faire le lien entre l'image et ce dont on parle vraiment derrière. Mais ici, avec la Nouvelle Jérusalem, comment savoir ce que sont les fondements, les murailles, les pierres précieuses, etc. Il se trouve que les clés sont ailleurs dans la Bible. En fait, la Bible explique la Bible. Quand on tombe sur un mot qui semble être une image, on ouvre une concordance pour voir où on en parle ailleurs dans la Bible. Et souvent, la clé se trouve dans l'un de ces autres textes que nous trouvons dans le reste de la Bible. Alors, voyons quelques images utilisées dans cette description de la Nouvelle Jérusalem. La première image utilisée, c'est celle du mariage. Reprenons notre chapitre 21 de l'Apocalypse au verset 9. Nous retrouvons notre ami Jean avec un ange qui lui dit « Viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. » Lorsque Jean entend parler d'une jeune mariée, ça lui rappelle quelque chose. En effet, dans la Bible, la relation entre Dieu et son peuple a souvent été représentée par le lien du mariage entre un mari et sa femme. Cette femme, c'est donc le peuple de Dieu. Ensuite, après avoir annoncé qu'il allait lui montrer la mariée, l'ange montre à Jean une ville qui descend du ciel. Alors je ne sais pas si Jean a été déçu, mais elle était plutôt carrée, la belle épouse. Jean fait la mise au point et il comprend. La ville, l'épouse, eh ben c'est le peuple de Dieu. Ce sont ses frères et ses sœurs de foi, c'est lui, c'est vous et moi. Alors qu'il croyait filmer une ville, il voit que sa caméra marche comme un miroir, c'est lui-même qu'il est en train de regarder. Jean n'est pas en train de parler de nos appartements dans les HLM du ciel. Il est en train de parler de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus et qui ont accepté de faire alliance avec lui comme lors d'un mariage. Et si le peuple de Dieu est comme une épouse, c'est parce que Dieu l'aime à ce point-là. Il désire se marier avec son peuple. Qu'est-ce que le mariage ? Ben, c'est vivre ensemble pour toujours, ensemble. Et à quoi sert une ville ? Une ville, c'est un lieu pour habiter et pour habiter ensemble. Et donc tout ce texte et tout ce récit est basé sur ce « ensemble ». Voilà ce que Jean est en train de voir. Dieu désire réunir son peuple auprès de lui. Alors maintenant, si c'est bien du peuple de Dieu qu'il est en train de parler, je suis curieux de savoir comment il le décrit. Nous lisons le verset 11. « La gloire de Dieu éclaire la ville de sa lumière. Elle brille comme une pierre précieuse, comme une pierre de jaspe, aussi transparente que du verre. » La ville est belle comme une pierre précieuse. La mariée est magnifique. Elle a la gloire de Dieu. Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est tout ce qui fait que Dieu mérite qu'on l'adore. Son amour, sa bonté, sa compassion, sa puissance, tout ça fait partie de sa gloire. Et cette caractéristique est présentée comme l'éclat d'une pierre précieuse. Et là aussi, ça fait penser à un épisode de la Bible. Dans le livre de l'Exode, il est dit que lorsque Moïse passait du temps en présence de Dieu sur le mont Sinaï, c'est là qu'il a reçu les 10 commandements, eh bien lorsqu'il descendait de la montagne, son visage brillait. C'était comme ces autocollants qu'on colle au plafond ou ces montres fluorescentes. Après avoir passé du temps à la lumière du soleil, quand vient la nuit, eh bien on continue à les voir briller dans l'obscurité. De la même manière, le visage de Moïse brillait après avoir passé du temps avec Dieu. D'ailleurs, il brillait tellement que les gens avaient peur de lui. Forcément, un homme qui ressemble à un lampadaire, c'est pas très normal. Alors il mettait un voile pour cacher son visage. Et comme Moïse brillait en descendant d'auprès de Dieu, Jean nous dit que la Nouvelle Jérusalem descend aussi d'auprès de Dieu et qu'elle brille. Voilà donc une des caractéristiques du peuple de Dieu à la fin des temps. C'est un peuple tellement proche de Dieu, qui vit tellement en sa présence, qu'en redescendant, ça se voit comme une lampe dans la nuit. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, ça nous transforme, on se met à lui ressembler, à tel point qu'on brille de sa gloire. On manifeste le même amour, la même bonté, la même attention et la même justice que lui. Alors, cet éclat est décrit comme semblable à celui d'une pierre très précieuse. Cela me fait plaisir que Dieu considère que nous sommes tellement précieux pour lui qu'il nous compare à une pierre précieuse. Le jaspe, tel qu'on l'appelait à l'époque, était une pierre transparente qui pouvait avoir beaucoup de couleurs différentes. Une pierre transparente, ça laisse passer la lumière en la colorant un peu. Une pierre opaque arrête la lumière, elle la garde pour elle. Si cette pierre peut briller, c'est qu'elle laisse passer cette lumière en elle jusqu'au dehors. Jean est en train de dire que le peuple de Dieu ne se contente pas de recevoir l'amour de Dieu. Cet amour le traverse et on peut voir Dieu à travers. Jean fait beaucoup mention de cette pierre de jaspe. Là aussi, on peut trouver une clé dans le livre de l'Exode, chapitre 28, les versets 17 à 20. Le grand prêtre, qui officiait dans le temple de Dieu, portait sur sa poitrine une sorte de tablier sur lequel étaient cousues 12 pierres. On appelait ça le pectoral. Ces pierres représentaient les 12 tribus d'Israël, et quand le prêtre allait se présenter devant Dieu, il représentait tout le peuple qu'il portait là sur sa poitrine. Or, nous voyons dans Exode 28, verset 17, que la pierre de jaspe était la dernière pierre mentionnée dans la liste des pierres qui étaient sur le pectoral. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans notre texte d'Apocalypse 21, on a aussi une liste de 12 pierres. Ce n'est donc pas un hasard. Et on y retrouve notre jaspe, et pas à n'importe quelle place. Alors que sur le tablier du grand prêtre, elle occupait la dernière place, Jean voit qu'elle constitue le premier fondement de la ville. Comme pour dire avec Jésus que les derniers seront les premiers. Voilà qu'enfin c'est ça qui sera le fondement du nouveau royaume. Ce sont les humbles qui ont la première place, les petits, ceux que l'on considérait toujours en dernier dans le monde d'avant. Autre élément, la muraille est en jaspe aussi. C'est au verset 18. Une muraille, c'est ce qui protège une ville. C'est ce qui donne la sécurité aux habitants. Désormais, c'est la gloire de Dieu qui nous protège. On peut essayer de se protéger en faisant des économies, en travaillant dur, en prenant des assurances maladie, des assurances auto et même des assurances vie. Rien ne pourrait mieux nous protéger que cette muraille. Quand on fait confiance en Dieu, quand on se sent aimé par Dieu, on n'a plus peur de tout perdre, on a tout gagné. Le jaspe nous montre que tout dans le peuple de Dieu rappelle son caractère. La gloire de Dieu, c'est ce qui se voit en premier chez le peuple de Dieu. C'est ce sur quoi est construite notre vie. Alors, on peut se demander si l'on fait partie de ce peuple de Dieu. On peut même en douter lorsqu'on voit comment il semble parfait. On ne se voit pas nécessairement comme quelqu'un qui brille d'amour, de compassion, de bonté pour les gens. Personnellement, je dois avouer que j'ai un peu de mal à m'y reconnaître. Qui se reconnaît dans ce portrait ? Décidément, l'appareil de photo de Jean est vraiment spécial. Il fait des effets spéciaux, on dirait qu'il embellit l'image. Arrivé là dans mon étude, je reste encore sur ma faim. Je n'ai rien appris de plus sur la taille de mon futur appartement, sur la manière dont on respirera à 2200 km d'altitude, ou si nous devrons utiliser des ascenseurs, ou si l'on pourra voler comme les anges. J'aurais bien aimé savoir, mais plus on avance dans cette description, plus cela confirme que la Nouvelle Jérusalem n'est pas un lieu, mais la description d'un peuple. Et il y a encore un détail important. Au verset 16, nous arrivons au centre du texte. Pendant toute cette vision, Dieu est en train de répéter la même chose à Jean. La ville a la forme d'un cube. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur ont la même mesure. Et là aussi, le livre de l'Exode nous donne des clés. Alors que le peuple d'Israël marchait dans le désert après sa libération de l'esclavage en Égypte, Dieu demande à Moïse de construire une sorte de temple portatif où le peuple pourrait le rencontrer tout au long de son chemin. C'est le tabernacle. Et Moïse reçoit des instructions très précises sur les mesures et les dimensions de la construction de ce temple. Or, il se trouve que le lieu le plus saint du sanctuaire avait les dimensions d'un cube. C'était une pièce si sacrée qu'une seule personne pouvait y entrer et seulement une fois par an, et c'était le souverain sacrificateur. On l'appelait le lieu très saint. Et c'est dans cette pièce qu'il y avait donc l'arche de l'Alliance, hein, ce coffre couvert d'or, là où Dieu manifestait sa présence. Cette pièce était séparée par un rideau d'une autre pièce appelée le lieu saint, où les prêtres pouvaient entrer tout au long de l'année pour officier. Et les évangiles ont aussi fait référence à ces deux pièces. Quand Jésus est mort sur la croix, les évangiles racontent que ce rideau de séparation dans le temple à Jérusalem s'est déchiré de haut en bas. C'est pour dire qu'en Jésus-Christ, Dieu était descendu parmi les hommes. Il s'est déchiré le cœur pour déchirer la séparation qui existait entre lui et nous, pour qu'enfin cette séparation disparaisse. Et Jean décrit donc le peuple de Dieu comme ce lieu très saint dans lequel il manifeste sa présence. D'après Jean, ce lieu mesure 12 000 mesures de côté. 12, c'est le chiffre qui représente le peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et Dieu le multiplie par 1000, comme pour dire qu'il y a toute la place qu'il faut pour habiter dans son cœur, que chacun ici a une place s'il le désire, s'il veut bien faire confiance en Dieu. Au verset 22, il est écrit que Jean ne voit pas de temple. En effet, à quoi sert un temple sinon à rencontrer Dieu, à aller vers lui ? Jean continue en disant que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est lui-même son temple, ainsi que l'agneau. Donc le temple ne sert plus à rien. Cela permet de comprendre quel est le sens de la vraie religion. La religion ne consiste pas à accomplir des rites, à apaiser Dieu par des prières, à faire des choses pour le mettre de son côté pour s'assurer une bonne existence. Le but de la vraie religion, c'est d'être avec Dieu, auprès de Dieu, parce qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Le temps de la Nouvelle Jérusalem, c'est la fin de la religion. Il n'y en a plus besoin parce qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Arrivé au bout de cette description de la Nouvelle Jérusalem, j'avoue que je suis un peu déçu. J'espérais trouver des détails sur où et comment on habiterait après le retour de Jésus. La Nouvelle Jérusalem me faisait fantasmer et je me disais que c'était peut-être un vaisseau spatial dans lequel Dieu nous emmènerait. Mais non. En fait, la Nouvelle Jérusalem dont parle Jean, ce n'est pas une ville, c'est un peuple. Et ce peuple est magnifique et il manifeste la présence et le caractère de Dieu. Alors il reste une dernière chose très importante à regarder. Le chapitre se termine sur une note un petit peu bizarre, c'est le verset 27. Je lis. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville, les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Hier, quelqu'un m'a lu ce texte et m'a dit « Je suis loin d'être parfait, quand je lis ça, est-ce que ça veut dire que je serai perdu ?» Cette question m'a fait me rendre compte que ce qui est le plus important dans cette histoire, ce n'est pas comment ça sera ou où, mais le vrai enjeu, c'est d'en faire partie. Est-ce que le plus important, ce n'est pas d'être assuré de faire partie de ce peuple qui sera auprès de Dieu ? Je vous invite à lire une autre parole de Jean que l'on trouve dans la première lettre, 1 Jean chapitre 1 verset 5 au chapitre 2 verset 2. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous mentons à nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il nous enlèvera tout le mal qui est en nous. L'Apocalypse mentionne deux types de personnes qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui commettent le mal et les menteurs. La première catégorie commet le mal et ça ne leur pose pas de problème. Ils ne ressentent pas le besoin de changer, de se repentir, de demander à Dieu son aide. Ceux-là ont fait leur choix. Mais la deuxième catégorie, c'est les menteurs. Comme le dit Jean dans sa lettre, ce sont ceux qui disent qu'ils sont parfaits et qu'ils sont les seuls véritables représentants de Dieu. En faisant cela, ils se mentent à eux-mêmes et aux autres et à Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas une élite de gens parfaits. Ce sont tous ceux qui reconnaissent qu'ils n'y arriveront pas par leur propre force, qui présentent la réalité de leur vie à la lumière de Dieu et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu pour être sauvés. En Jésus-Christ, Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour notre salut et pour notre transformation. Alors si vous désirez faire partie de ce peuple de Dieu, vous pouvez tout simplement dire aujourd'hui à Dieu « Oui, j'ai besoin de toi pour être sauvé. Seigneur, je te donne ma vie. » Si vous faites cette prière, alors Dieu vous répondra. Il vous dira « Cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, que j'ai moi-même créée, c'est toi. Je te regarde comme tu seras. Je te trouve beau, belle. Tu me ressembles tellement maintenant qu'on se connaît. Si tu veux vivre cela avec moi, fais-moi confiance et laisse-moi te changer par mon amour. Je te promets qu'il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances. Et nous serons enfin réunis ensemble pour ne plus nous quitter. Amen.
Viens avec moi, oh, prends ma main, nous marcherons vers le matin. La nuit est sombre, c'est point certain, mais devant nous, toujours un chemin. Viens avec moi, il n'y a pas de montagne aux sommets inaccessibles ou de vallées trop profondes. Oh, oh, car je suis là tout près avec toi. Oh, 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 car je me tiens là tout près. Viens avec moi, oh, prends ma main. Nous chasserons tous ces chagrins, toutes ces larmes. Ce cœur éteint disparaîtront dans le lointain. Viens avec moi. Tout près. aucun danger ne pourra te toucher, que nous ne pourrons vaincre ensemble. Oh, oh, car je suis là tout près avec toi. Oh, 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 car je me tiens là tout près de toi. Oh, 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 car je suis là tout près avec toi. Oh, 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 car je me tiens là.